m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Ah, milieu lundi, Hardy, oui, vous êtes sur Radio Courtoisie et bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat en partenariat avec Boulevard Voltaire, L'Incorrect, Valeurs Actuelles et Le Monde Moderne. Alors ce soir, nous vous proposons un format un peu spécial puisque une partie de notre émission a été préenregistrée, vous comprendrez vite pourquoi. Donc nous allons commencer exceptionnellement et en direct par notre rendez-vous de la réinformation avec plusieurs sujets au menu. Le premier, c'est l'Algérie. Deux mois après son retour à Alger, et après en avoir quand même été éjecté comme un valet par les autorités locales, l'ambassadeur de France en Algérie, qui s'appelle Stéphane Romaté, a donné un grand entretien aux médias en ligne qui s'appelle « Tout sur l'Algérie », et il y fait tout un tas d'annonces sur la reprise des relations qu'il espère au beau fixe entre les deux pays, et pour cela, bah, évidemment, il fait beaucoup d'efforts, donc il évite soigneusement tous les sujets qui fâchent, et il fixe notamment, c'est quand même je ne sais pas si c'est le pire d'ailleurs, mais en tout cas il le fait, il fixe notamment donc, le retour à une norme de 250 000 visas pour les émigrants algériens, donc il veut revenir à ce que l'on donnait avant que nos deux pays se fâchent un peu, enfin une nouvelle fois en tout cas. Et voilà, bah écoutez, on va se demander comment expliquer cette soumission totale des gouvernements macronistes à Alger, parce que ça fait quand même 10 ans que l'on voit une soumission qui est vraiment bizarre d'Emmanuel Macron envers l'Algérie, et ce sera l'angle de notre premier sujet. Gauche et pédocriminalité, ensuite. Là encore, donc
Aucun rapport avec le sujet précédent,
non,
j'espère.
Non, sauf la longue durée, puisque dans le projet de loi sur la protection de l'enfance qui a été voté vendredi dernier, donc il y avait une mesure qui instaurait la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols en série sur des mineurs de moins de 15 ans, et cette mesure a tout de même été rejetée, à cause du vote de la gauche, et spécialement du vote de LFI et des écologistes. Alors, comment expliquer l'incroyable et louche, il n'y a pas d'autre mot, la louche indulgence de la gauche et de l'extrême-gauche envers les criminels sexuels? Je crois que c'est quand même vraiment une question importante, et c'est ce dont nous parlerons donc dans un instant. Présidentielle ensuite, puisque ça compte aussi. Emmanuel Macron appelait toujours vendredi, il appelait à rester prudent face aux sondages qui prédisent unanimement la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027. Alors, nous avons au moins une certitude qui est toute réconfortante, c'est qu'en 2027, ça ne sera plus Emmanuel Macron, c'est déjà une bonne chose, mais quoi qu'on pense de lui...
D'ailleurs, les sondages ne le testent pas du tout.
Même pas. mais quoi qu'on pense de lui, donc voilà, a-t-il raison ou tort de mettre en garde contre les certitudes sondagières à un an du vote? Ça sera également un de nos sujets. Influence numérique, après avoir cru en 2024 qu'il pourrait boycotter le réseau X et imposer le réseau Blue Sky, les gauchistes, notamment français, admettent leur défaite et reviennent sur le réseau social d'Elon Musk, qu'ils continuent, je ne sais pas si vous avez remarqué dans leur communication, à appeler Twitter comme dans une forme de déni typiquement gauchiste, quelque chose entre la parole performative et une nostalgie de l'époque où Twitter était un réseau social de gauche qui pouvait sanctionner les comptes de tous les déviants. Mais malheureusement, non, malheureusement, heureusement pour nous, mais malheureusement pour eux, c'est terminé. Et on s'interrogera, voilà, comment expliquer donc l'échec de cette initiative gauchiste? Quelles leçons faut-il tirer de la victoire de X sur Blue Sky et de cette, ce qu'il faut bien appeler, une défaite idéologique de la gauche? C'est quand même intéressant, parce que là, c'est une vraie défaite. Eh bien, voilà, nos experts vont bientôt vous répondre. Et puis, si nous avons un moment, nous dirons un mot du racisme qui a agité le parcours de l'équipe de France de Babal, qui s'est achevé par une défaite assez sévère face à l'Espagne, mais aussi face à l'Angleterre. J'ai pensé à Richard de XVI.
C'est vrai, ils ont été nuls, ils ont été nuls jusqu'au bout.
Voilà, et alors pour être parfaitement honnête, c'est Jean-Yves Le Gallou qui m'a proposé ce sujet sur le racisme au sein de l'équipe de France, mais je n'ai pas compris quel était le... Est-ce que c'est du racisme anti-blanc? Est-ce que c'est du racisme...
Bref, ah bah, il c'est nous du racisme anti-blanc, oui. Eh bah, oui,
vous nous l'expliquerez dans, oui, bah, tout à l'heure.
Je vous l'expliquerai très bien, oui. Enfin, très bien.
Mais oui, j'arrive.
J'essaierai.
Et en toute objectivité.
Absolument.
J'espère, parce que nous sommes neutres. En seconde partie et en grand invité, donc nous allons, enfin nous recevrons, mais nous nous l'avons déjà reçu, vous écouterez Julien Sanchez. Alors Julien Sanchez est une personnalité qui est aussi discrète qu'essentielle au sein du Rassemblement National et qui a tout à fait exceptionnellement accepté de sortir de l'ombre. Il est aussi méconnu du grand public que déterminant dans le fonctionnement du parti, puisque c'est un militant historique. Il a été maire de Beaucaire pendant 10 ans, il est devenu député européen. Il a dirigé la campagne des municipales qui ont quand même été, qui se sont soldées par quelques jolis succès. Et il est désormais le directeur de campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027. Donc autant dire qu'il va être une des personnalités centrales de l'année à venir. Et donc son portrait et son premier grand entretien a eu lieu sur Radio Courtoisie. Donc on peut légitimement pousser un petit cocorico. Et pour parler voilà, de tous ces sujets, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir les derniers Mohicans de la réinformation, parce que nous sommes trois en tout et pour tout dans le studio, c'est vraiment l'été. Voilà, donc c'est pas le format Saint-Denis qui était cher à notre ami, enfin notre ami, au président Macron, mais c'est le format estival. Donc nous avons le grand sachem de la réinformation, Jean-Yves Le Gallou, et non pas le chef à plumes. Alors le chef à plumes, c'est une expression ridicule. Qui a été, qui est une espèce de dérive journalistique inculte, parce qu'en fait on parlait des chapeaux à plumes jadis, pour parler des Hidalgo, pour parler des gens qui étaient à la cour des rois de France, et ils ont dérivé vers chef à plumes. Or tous les chefs indiens avaient des plumes, et même les pas chefs d'ailleurs, puisque la plume chez les Indiens ne caractérise pas le rang. Mais surtout, on dit un chapeau.
Chose grâce avec vous,
Merci.
D'ailleurs, le jeune Yakari, qui est un enfant, a des plumes.
Exactement. Yakari a des plumes.
Un grand aigle.
Exactement. Voilà. Et en fait, voilà, donc le chapeau à plumes, c'est pour les aristocrates des 17e et 18e siècles dans les cours d'Europe. Et normalement, ça évoque plus donc, le grand Condé que Sitting Bull. Donc voilà, bah, et en plus ça vous va bien, chapeau
oui,
à plumes.
Absolument.
Voilà, plutôt que la toque de castor. Non,
c'est... On sent moins trappeur que Alice dans la cour, je suis voilà. D'accord.
Richard de 16, donc vous l'aurez reconnu. Il nous manque bah, donc voilà, tous les autres hein, qui sont plus ou moins partis. Il y avait le rôdeur de la frontière, Alexis Poulain. Donc, on ne sait jamais s'il est là, pas là. Là, il n'est pas là. Donc, et nous aurons après donc Julien Sanchez, vice-président du RN, donc et directeur de campagne de Marine Le Pen. Chers auditeurs, de votre côté, vous pouvez intervenir pendant une heure, donc jusqu'à 18h30, top chrono. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vos remarques, et nous les lirons dans la mesure du possible. Vous pouvez écrire donc à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou téléphoner à Solange, qui vous accueillera au 01. 46 51 00 85 01 46 51 00 85. Alors on commence sans tarder avec les 250 000 visas offerts à l'Algérie par l'ambassadeur de France là-bas. Donc c'est ce que je disais en introduction, 2 mois après son retour à Alger, l'ambassadeur de France a donné un grand entretien à un média en ligne et il y annonce... Alors, je vous laisserai peut-être me donner votre avis sur cet entretien passionnant, mais il y annonce notamment le retour à une norme de 250 000 visas par an pour les émigrants algériens pour permettre de relancer la relation entre Paris et Alger. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire.
Ben c'est le média tout sur l'Algérie, qui est un média effectivement reconnu, un média en même temps qui est totalement dans la ligne du parti au pouvoir. Et ces 250 000 visas sont l'objectif que donne l'ambassadeur de France en expliquant qu'il faut absolument revenir à ce niveau, voire même le dépasser. Il a 2 ou 3 formules qui vont dans ce sens-là. Et ce qui est amusant, c'est qu'à peine l'interview était-il paru, qu'évidemment l'ensemble de la classe politique française a réagi plutôt défavorablement. Notamment, bien sûr, tous les gens qui sont un peu de sens racis et qui ont expliqué qu'il n'y avait pas de nécessité absolue à ce qu'on en accueille autant. Et le Quai d'Orsay a publié un démenti en expliquant que, en fait, En gros, l'ambassadeur s'est étalé jusqu'à expliquer que ce niveau de 250 000 était le niveau souhaitable et minimal, mais que, par ailleurs, le Quai d'Orsay avait d'autres choses à négocier avec l'Algérie. Et donc, c'est tout juste, et comme un des intervenants sur CNews le disait, c'est tout juste si on n'était pas en train de nous dire 250 000, c'est n'importe quoi, mais en revanche, 200 000, pourquoi pas. Donc, comme si l'autre n'avait pas prononcé ce chiffre ahurissant, juste pour qu'ensuite on explique, mais si, bien sûr, on a fait des efforts terribles, on est arrivé juste à 225 000, vous voyez bien qu'on a diminué, avec toujours cette idée d'une Algérie qui, en fait, exige en permanence, d'une Algérie qui a en face d'elle, depuis 10 ans, une Macronie totalement soumise, prête à tout, y compris à toutes les compromissions, à tous les abandons mémoriels. À un moment donné, Emmanuel Macron nous expliquait qu'il y avait une rente mémorielle, Alger était furieux, et maintenant, Emmanuel Macron dit tout le contraire, avec des gens aussi incroyablement acquis, non seulement à l'Algérie, mais même à la religion d'islam, que Laurent Nunez, avec son discours à la Grande Mosquée, etc. Donc, on rentre avec cet ambassadeur de France dans une séquence où, là aussi, Emmanuel Macron veut faire en sorte que tout soit le plus compliqué possible pour son successeur dans ses relations avec l'Algérie et dans la manière dont on va traiter cette immigration prétendument choisie.
Jean-Yves Le Gallou.
C'est quand même étrange, comme les déclarations de Nunez à la Grande Mosquée de Paris, sauf à penser...
Rappelez-le peut-être pour les auditeurs.
Oui, Nunez a expliqué à quel point l'islam était une religion de paix et devait pouvoir se développer en France à l'occasion du 100e anniversaire
de la construction de la Grande Mosquée
de Paris, où il y a eu d'ailleurs des points de vue très différents qui s'étaient exprimés à l'époque entre le général Lyautey, le maréchal Lyautey, pardon, qui était l'inspirateur de cette formule dans une vision un petit peu coloniale, hein, et Charles Maurras, qui avait tout de suite vu le danger, était un très bel article, effectivement visionnaire. Il y a un siècle, c'était quand même fort bien vu. Eh bien là, la logique de Nunez, c'est un peu celle d'ailleurs qu'il y a eu au moment de la colonisation de l'Algérie, où une partie des élites maçonniques de la Troisième République considérait plutôt l'islam comme allié contre le catholicisme, et donc ont ménagé l'islam. Il y a eu une politique coloniale pro-islam, et il y a maintenant une colonisation... islamique en France, voilà, et qui est bien vu du pouvoir, et notamment de Laurent Nunez.
Ouais. Les imams sont nos alliés.
Les imams sont nos alliés.
Citation de Laurent Nunez.
C'est beau, ça. Voilà. Et les curés, non?
Ah, non.
Non,
on l'a pas entendu. On l'a pas entendu aux 1000 ans de ceci, aux 700 ans de cela, parce que voilà, des anniversaires catholiques, on a quelques-uns à célébrer à l'appel chaque année. Quoi.
Mais vraiment, on a quand même le sentiment que c'est une politique délibérée. Là, c'est plus, c'est plus de la faiblesse, lâcheté, c'est de la nuisance.
Et Nunez avait
de la nocivité.
Était celui qui avait remplacé justement Bruno Retailleau, jugé beaucoup trop agressif, alors qu'il était simplement ferme ou exigeant envers l'Algérie.
Alors que Bruno Retailleau se contentait de dire des choses sans les appliquer, en expliquant on va voir ce qu'on va voir, on ne voyait jamais rien venir.
Il était quand même tenu par un gouvernement.
Enfin, il en faisait partie, et cela seul suffisait déjà à lui assurer une réputation de furieux.
C'est ça l'avantage. Il suffit de parler et le gogo des lecteurs se satisfait de paroles non suivies des faits. Et c'est vrai qu'au niveau des paroles, il y a un changement. Et je crois quand même qu'au ministère de l'Intérieur, dans la hiérarchie de la haute administration et des cabinets, il y a eu un changement. Moi, je ne suis pas spécialement admirateur de Retailleau, mais il y a eu un changement à la fois dans le cabinet et dans le personnel dirigeant, notamment le secrétaire général du ministère, Hugues Moutou, qui est quand même pas parfaitement politiquement correct, a été dégagé.
D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, cette attitude d'Emmanuel Macron depuis le tout début de son mandat, finalement, enfin de ses deux mandats? C'est-à-dire qu'on a toujours eu cette... Sauf à une époque où il a reconnu... Et ça, c'est marrant, parce que le Cornu était au Maroc, là, simultanément à l'apparition de cet entretien. Mais sauf avec cette rupture définitive, enfin pas définitive, mais forte, qui a valu que Macron reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental... Comment expliquer cette honnêtement, faiblesse
la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ça n'avait pas d'intérêt pour la diplomatie française.
C'est de une opération... les liens avec le Maroc, qui est quand même plus un allié que l'Algérie.
Ouais, mais enfin, à quel prix? Si c'est après pour faire preuve de faiblesse avec l'Algérie,
ça c'est sûr.
C'est surtout le résultat, je pense, d'un lobbying marocain assez efficace, notamment avec Rachida Dati. Voilà, il y a eu un lobbying marocain très efficace. Macron s'est embarqué là-dedans.
Mais est-ce qu'il n'a pas eu plus raison de soutenir le Maroc que l'Algérie, quitte à soutenir quelqu'un sur ce front? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être proche du Maroc que de l'Algérie? La sécurité, c'est-à-dire le renseignement antiterroriste, éventuellement la maîtrise à minima de certains flux migratoires.
La maîtrise de la drogue?
De la drogue. Enfin, cela dit, la drogue vient souvent du Maroc.
Oui, en tout cas, on ne sait évidemment pas ce qu'il y a dans la corbeille, mais...
Généralement, avec Macron, il n'y a rien. Il y a ce que la France offre, mais le retour est assez rare. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être du retour.
Là, on n'a pas parlé des OQTF, par exemple. En échange des 250 000 visas, on ne sait pas ce qui va en être des OQTF.
Mais il n'y a pas eu un mot dans l'entretien, surtout.
Non.
Tout l'entretien est sur la décrispation des rapports, le fait qu'il faut faire autrement. Et donc, là aussi, d'ailleurs, tous ceux qui ont réagi ont dit « mais c'est quand même hallucinant, l'Algérie refuse de prendre ses ressortissants, l'Algérie insulte la France ». C'est passé un
L'Algérie en Bastille, un journaliste français.
Et un écrivain a été libéré.
Et il paraît que là aussi, comme pour Boualem Sansal, c'est en Allemagne que le sort de Christophe Glaes va se résoudre. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'Algérie a voté des lois, on parle beaucoup de l'hymne national algérien et de ses couplets anti-français. L'Algérie a voté une loi en expliquant qu'elle avait le droit d'intervenir pour aider ses ressortissants dans les pays étrangers. Donc autrement dit, l'Algérie est en train de dire que si les Algériens sont menacés dans un pays où ils habitent en tant qu'immigrés et en tant que citoyens algériens...
Et dont on nous dit qu'ils sont aussi citoyens français pour un certain nombre d'entre eux...
Eh bien, l'Algérie s'est donné le droit d'intervenir physiquement sur le sol étranger. C'est-à-dire que l'Algérie vient de théoriser une espèce de truc dont même Trump n'a pas rêvé.
Alors les Russes l'ont fait en fait, les Russes le font. En fait, je pense que c'est le modèle russe qui a été... Les Russes ont déclenché toutes leurs opérations militaires spéciales, pour rester poli, contre la Géorgie, contre l'Ukraine. Ils le menacent un peu contre les Pays-Baltes par ce fait qu'ils ont le droit...
Il y a une population
russophone. Et qu'ils ont le droit et le devoir...
Donc, qui sont d'ailleurs les populations russophones dans les Pays-Baltes, ce sont des immigrés à l'origine. Oui, des immigrés à l'époque soviétique.
Voire des déportés, même pour certains.
Là, il y a une immigration algérienne en France.
Alors, ils ne sont pas parfaitement bien traités dans les Pays-Baltes.
Ni parfaitement assimilés. C'est pas parce qu'on est russe qu'on est assimilé.
Et dans le cas des Algériens, ils sont plutôt très bien traités en France, mais par contre, ils sont de moins en moins bien assimilés. Et donc, le gouvernement algérien a décidé qu'il pouvait venir aider ses ressortissants. On a assisté à une manifestation il y a peu de temps contre l'algérophobie française parce qu'un ressortissant algérien avait été tué par un ressortissant marocain dans un restaurant tunisien. Conclusion. Vous êtes algérophobe. Mais effectivement, on en a moins parlé parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué. Et là, en plus, il n'y avait vraiment aucune raison d'en parler. On se retrouve donc avec un gouvernement algérien qui est de plus en plus critique vis-à-vis de la France, de plus en plus vindicatif et surtout de plus en plus agressif.
Mais en fait, c'est ça la bizarrerie. C'est-à-dire que plus ils nous crachent dessus, plus on a des dirigeants qui se couchent. Là, par exemple, l'ambassadeur de France, donc M. Romaté, a expliqué dans son entretien, donc il insiste sur le fait qu'il ne faut pas chercher à savoir qui était responsable de la brouille précédente. Ce sont ces mots. Évidemment, parce qu'on sait tous très bien que ce sont les Algériens qui ont, encore une fois, ils sont revenus à l'histoire de la colonisation de l'Algérie, c'est-à-dire c'est devenu encore un nid de pirates qui prend des otages par pure piraterie. C'est-à-dire Boualem Sansal, c'est de la piraterie, Christophe Glaes, c'est de la piraterie, et ensuite ils font une politique des otages qui, à l'époque où la France avait une politique, leur avait valu d'être envahis et colonisés. C'est pour qu'ils nous foutent sur la paix.
La prise d'Alger, c'est une entreprise
De contre-terrorisme.
De contre-terrorisme et de liberté de navigation en Méditerranée. Oui. Voilà, c'est pas autre chose.
Et là, par contre...
D'ailleurs, à l'époque, on était allé sur le terrain, contrairement aux Américains, qui, comme d'habitude, avaient, eux, décidé de négocier avec les musulmans... pour avoir le droit de naviguer eux, mais en se foutant évidemment éperdument du reste des populations de la Méditerranée. Enfin voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais malgré tout, enfin voilà, c'est assez
au
amusant.
Passage. Voilà,
c'est si jamais des gens ont envie de comprendre comment ça marche du côté d'Ormuz.
Mais voilà, donc c'est assez étrange. On soulignera aussi que donc il a pas eu un mot ce monsieur qui est donc ambassadeur pour le sort du journaliste français donc Christophe Glaze qui est un journaliste sportif. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça aussi. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Ce type est otage. L'ambassadeur donne un énorme entretien fleuve et pas un moment, il ne demande que soit mentionné... Enfin, c'est quand même invraisemblable.
Et surtout, il faut souligner que quand un ambassadeur de France donne un entretien, c'est pas comme le pape François qui dit n'importe quoi quand il revient d'avion, quoi.
C'est-à-dire, en fait, c'est validé.
Oui. Enfin, voilà. Autrement dit, ils ont délibérément décidé de ne pas parler de Christophe Glaze.
Avec un point qui est d'un cynisme assez effarant, c'est que la conclusion de cet entretien, c'est donc l'ambassadeur de France, M. Romaté, qui dit qu'aujourd'hui, à l'instant où il parle, donc c'est le jour de la demi-finale de football entre la France et l'Espagne, et il dit « je n'ai qu'une chose à dire, allez les Bleus ». Et il se trouve que Christophe Glaze est un journaliste sportif qui a été arrêté dans le cadre d'un reportage sur le football, et que la FIFA l'a symboliquement accrédité pour la Coupe du Monde. Bon, ça va pas uriner loin, pour être poli, mais c'est quand même symbolique.
C'est plus courageux que ce qu'a fait le gouvernement français.
Alors, encore une fois, là, je ne sais pas comment vous vous expliquez ça. Ça me semble effarant.
Bah, l'explication complotiste, c'est que Macron est tenu.
Oui.
Mais ça cadre...
Allons-y.
ça cadre imparfaitement... avec deux de ses mesures, quand il a parlé de la route mémorielle et du Sahara. Oui.
Donc c'est quoi alors enfin, c'est l'extrême centre. C'est en même temps.
Non, je crois que c'est. Alors d'une part, n'écartons pas tout de suite ce complotisme de mauvais aloi, bien sûr, Jean-Yves, mais
et que nous condamnons fermement.
Et, absolument. Et d'ailleurs, nous nous rendrons sur place. Ou non, d'ailleurs. Il y a effectivement, de la part de Macron, une complaisance vis-à-vis d'un régime algérien furieux qui est absolument inexplicable. Et l'idée qu'ils aient deux ou trois dossiers sur lui, n'est pas, sur lui ou sur des gens de la Macronie n'est pas à écarter. L'autre hypothèse, c'est que le Bloc central a décidé de faire front commun avec ceux qui promeuvent la Nouvelle-France.
Oui.
Et donc, ont décidé que oui... il y a plusieurs millions d'immigrés en France, il y a plusieurs millions d'Algériens en France, de première, deuxième ou troisième génération, et que dorénavant, ce sont ces gens-là qui constituent la base électorale et les agents efficaces d'une transformation complète de la France par rapport à ces vieux Français de souche qui résistent encore et qui bêtement tiennent à porter des vêtements alsaciens en Alsace et à boire du Gewürztraminer plutôt que de boire du Fanta.
C'est à rapprocher d'ailleurs du discours de l'extrême-centre qui, sur l'immigration, veut relancer l'immigration dite de travail dans un pays qui a beaucoup de chômage.
Ouais.
Et au moment où l'intelligence artificielle est en train de se développer, sachant que l'immigration de travail engendre immédiatement après une immigration
familial.
De regroupement familial.
Et donc, ils sont
dans une logique de poursuite de l'immigration. Alors, ils ne le disent pas de manière aussi ouverte, mais c'est ça le discours d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal.
Et avec, comme on le sait, les immigrés de deuxième ou troisième génération n'ont pas un taux d'emploi meilleur. Et les immigrés, même de première génération, ceux qui arrivent là en ce moment, ont un taux d'emploi inférieur au taux français. Donc autrement dit, cette prétendue immigration de travail n'en est pas une. Un auditeur de Courtoisie nous dit « Comment est-il possible de vouloir faire entrer autant de musulmans en France, compte tenu de tous les attentats dont a été victime la ville de Paris ? Nous avions peur tous les jours en prenant les transports pour aller travailler. »
C'est une auditrice, hein, d'ailleurs. C'est une excellente question, mais il faut se dire quand même 250 000 dans l'hypothèse où il tiendrait cet accord. C'est comme l'équivalent d'une grande ville.
Oui.
250 000 par an.
Oui,
en
mais
10
alors,
ans, on a
250 000, le visa, ça ne veut pas dire qu'il reste là.
Non, je sais bien. Mais bon,
dans les visas...
Il y a des visas étudiants.
Il y a les visas, bon, ça ne veut pas dire qu'ils restent tous là, quand même. Voilà.
Oui, enfin, c'est quand même... Ça chiffre, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, je sais pas donc si on a fini avec cette affaire Macron, enfin avec cette affaire d'Algérie, mais ça me semble un peu bizarre. Et j'avoue que je n'ai toujours pas d'explication réelle à cette complaisance. C'est peut-être pas ce soir qu'on aura la réponse, peut-être dans quelques années.
Non, mais sous les, on a longtemps présenté le grand remplacement qui, aux yeux de Camus, est un constat, a longtemps été présenté comme une théorie complotiste, comme quelque chose de voulu. Bon, et objectivement, quand on regarde les politiques qui sont suivies, et l'augmentation des flux migratoires d'Algérie et d'ailleurs tous les ans, l'augmentation des flux tous les ans, on peut quand même se demander est-ce que c'est pas voulu ? Parce que si c'était pas voulu, ce serait quand même bien imité, quoi.
C'est vrai. Alors, ce qui est bien imité, là, enfin, c'est pas imité, d'ailleurs, ça, c'est voulu, c'est la gauche qui refuse la perpétuité pour les violeurs pédophiles récidivistes. Rien que de le lire, c'est quand même invraisemblable.
Ils protègent leur ami Cotino, peut-être.
Vous nous en donnerez plus de détails, mais peut-être tous leurs amis. Enfin, il y a un paquet d'amis, j'ai l'impression, qui sont protégés. Donc, en gros, c'est la première lecture donc, d'un texte pour pénaliser, finalement, les criminels donc, sexuels, et notamment les violeurs récidivistes, les violeurs en série, sur des mineurs de moins de 15 ans. C'était voté à l'Assemblée nationale vendredi, et le vote a été cassé, rejeté, parce qu'on prévoyait la perpétuité réelle pour ce type de criminel. Et la gauche LFiste et la gauche écologiste s'est opposée à cette mesure, et l'élu LFI, donc qui était la députée Gabrielle Catala, a estimé que l'idée de la perpétuité n'inciterait pas les violeurs à s'améliorer.
c'est la logique Badinter. Oui. On met Badinter au Panthéon. La logique de Badinter, c'est qu'on est dans une logique de réinsertion, de rééducation.
Et elle s'est mise sous la perpétuité de Badinter.
Et la perpétuité réelle, et ben c'est le fait que la personne serait inamendable, ce qui est contraire à la logique badinterienne qui structure toute la politique judiciaire. J'ajoute un élément. À partir du moment où on augmente les cas de perpétuité réelle, d'un certain point de vue, on prépare le passage à l'étape suivante, c'est-à-dire le rétablissement de la peine de mort. Et donc, c'est aussi probablement un verrou qui émet à une discussion qui reviendra d'une manière ou d'une autre, qui est la question de la peine de mort.
Et pour autant, ça pourrait être un crantage, pour prendre le jargon politique à la mode, qui devrait les rassurer, c'est-à-dire que ça évite la peine de mort. Ça peut aussi être ça. En fait, ce qui est surtout bizarre, ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'est que cette... j'allais dire un gros mot, cette députée, nous parle de la rédemption et de la réinsertion du violeur en série contre des petits mineurs de moins de 15 ans. L'idée que la peine n'ait pas une portée pédagogique, mais qu'elle puisse simplement viser à neutraliser des prédateurs qui violent des gosses et à épargner des drames horribles à nos enfants et à la famille de ces enfants, ça ne l'effleure manifestement pas du tout. L'idée qu'on neutralise un monstre... qui peut-être effectivement n'est pas amendable, qui peut-être ne peut pas se réinsérer, qui peut-être ne peut pas résister à des pulsions, parce qu'objectivement, j'imagine que quand on viole des enfants, c'est qu'on est vraiment quelqu'un de taré au sens le plus rigoureux. Je ne pense pas qu'on puisse être normal et simplement se dire, bah moi je viole les gosses. Quoi.
Tiens, pourquoi pas.
Oui, voilà. Non mais en fait, évidemment qu'on est fou quand on fait ça.
Vous êtes contre les sexualités alternatives,
c'est quand même dingue. En fait, l'idée que simplement on veuille empêcher un monstre de recommencer ne lui effleure pas l'idée. Mais
le cas de Cotino, qui est un élu écologiste, qui organisait des gay prides. Il a été poursuivi, doit être quand même incarcéré, j'imagine, pour acte de barbarie sur des enfants de moins d'un an. C'est une horreur absolue sur des nourrissons.
Des nourrissons qui lui avaient été confiés par les services de l'État.
Oui.
Il faut aller au bout de l'intelligence de la situation que ces représentants du peuple sont en train de valider. Donc effectivement, Cotino, proche de LFI aussi, dire candidat LFI si je ne m'abuse, et pas...
Il était, oui, candidat...
C'est à Nantes, c'est ça ?
Oui.
C'est à Nantes ? Si c'est à Nantes, c'est pas LFI, non ?
Je ne sais pas si c'est à Nantes, mais en tout cas, oui, c'était...
Parce qu'à Nantes, il y en avait un autre.
Voilà, on ne connaît pas tous les noms. D'ailleurs, si les auditeurs de Courtoisie veulent nous aider
à cartographier les pédophiles de LFI. On est,
ah bah oui.
Nous sommes prêts à passer le dossier à Éric Coquerel. Dans cette histoire, il y a l'idée que la prison ne doit servir qu'à la rédemption. Mais la prison, d'abord, sert à protéger le peuple, en fait. La prison, c'est une punition, mais c'est aussi une protection. En fait.
C'est une prévention.
Le fait qu'on nous dise que la personne doit être réinsérée, oui, pourquoi pas, très bien, bonne idée. Soyons plus généreux que ceux qui ont inventé l'ensemble des dispositifs carcéraux avant nous. Mais ne confondons pas la finalité initiale. C'est-à-dire, si je te mets en prison, c'est parce que tu n'es pas capable de vivre en dehors. Oui. Voilà, c'est oui, mais... je te punis en te privant de ta liberté, mais parce que tu fais un usage de ta liberté qui est absolument déplorable et tu fais du mal aux autres. Donc tu vas rester en prison. Si en prison tu trouves ton chemin de Damas et grâce à un prédicateur musulman qui te permet de voter LFI ou grâce à un autre LFiste emprisonné pour pédophilie qui va t'expliquer comment lui-même a trouvé le chemin électoral, eh bien, tant mieux, mais tu es d'abord en prison pour faire en sorte de ne pas faire de mal aux gens. Et ça, c'est, la gauche l'a complètement oublié.
Parce que la logique de Badinter, hein, c'est la logique de loi pénale d'après Badinter, c'est la prison, c'est en dernier recours, il faut limiter le recours à la prison, il faut permettre la réinsertion, la réhabilitation du délinquant. Et on a mis Badinter au Panthéon. Ouais. À l'unanimité, si je puis dire, parce que je n'ai pas entendu sur aucun champ politique la critique de la panthéonisation de Badinter.
Voilà. À part ici.
Oui. Ah non, mais je parle sur le champ politique.
Ici, je tiens à dire qu'on a quand même sauvé l'honneur de la classe politique en vomissant des tonneaux de venin sur Badinter.
Oui, mais c'est pas la.
Mais
c'est
nous
un média.
Il
n'y a pas eu de.
Non, c'est vrai.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de formation politique. LR ou RN, par exemple, au hasard, ils ont rasé les murs comme d'habitude dans ce cas-là.
Oui, personne n'est venu.
C'est pour nous parler du sujet
l'Algérie.
Précédent. Voilà.
C'est pas grave.
Si Macron protège l'Algérie, c'est qu'il lui achète du gaz en quantité, dont une partie va en Allemagne, et du pétrole. Ces deux pays n'achètent en plus en Russie, donc il a les mains liées.
Ah oui,
donc c'est pas
c'est une explication. Oui.
C'est pas idiot.
Et ce qui prouverait, ça ne va pas faire plaisir à Pierre-Alexandre, que ce n'était peut-être pas forcément une très bonne idée de se brouiller complètement avec Poutine.
Bah, c'est-à-dire que si Poutine n'attaquait pas tous ses voisins, on pourrait être amis. Mais après, cela dit, ça n'empêche pas de diversifier ses approvisionnements. Que je sache, le Danemark a du pétrole, du gaz. On n'est pas obligé de tout acheter à des gens qui nous crachent dessus toute la journée. Quoi. Le fait d'avoir des hydrocarbures ne doit pas être un blanc-seing pour faire ce qu'on veut... avec ses partenaires. Quoi. Ça me semble vrai pour la Russie comme pour l'Algérie. Et tiens, on va peut-être en profiter pour remercier des auditeurs.
Mais oui.
Une auditrice de Béziers dans l'Hérault qui envoie 30 euros et qui nous dit nous ne pouvons pas faire plus pour l'instant, mais l'année n'est pas finie. Merci à vous tous pour votre courage, pour la qualité de ces programmes et votre résistance. Et ben, merci, chère madame. J'en profite pour dire que nous sommes au cœur de l'été. J'écris assez régulièrement en ce moment à tous les auditeurs qui sont abonnés à nos lettres d'information pour leur signaler que nous avons un besoin réel et vital d'à peu près 150 000 euros. Là, heureusement, les auditeurs réagissent, donc je les en remercie chaleureusement. Et ça nous permet de combler le trou. Mais nous avons absolument besoin de cette somme d'ici septembre, parce que nous ne sommes pas un service public. Donc si nous n'avons pas les sous pour payer les salariés, pour payer les charges, pour payer l'antenne hertzienne qui nous donne l'accès à la bande FM, nous sommes dans une difficulté majeure. Voilà, il faut le savoir. C'est vraiment important et j'appelle régulièrement aux dons parce qu'évidemment il y a tous les auditeurs qui ne donnent pas bien qu'ils écoutent, mais là c'est vraiment une situation de crise, c'est-à-dire tous les ans l'été est une période dangereuse pour nous et là c'est encore plus dangereux. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, si c'est à cause de la canicule, mais il y a moins de dons que l'année passée et le danger reste pourtant réel. Voilà, donc j'insiste vraiment et je remercie infiniment cette auditrice, par exemple, qui est de Béziers, qui a donné, qui nous écoute sûrement sur Internet.
Un auditeur du Ménil-Aubry, lui, dans le Val-d'Oise, envoie 50 euros, un petit supplément de ma cotisation pour passer l'été. Bonjour à toute l'équipe de Radio Courtoisie.
Eh bien, cher monsieur, bonjour et merci, parce que c'est exactement le message que je viens de passer. Pour passer l'été, on a absolument besoin que les auditeurs se mobilisent. Alors, ceux qui donnent déjà, on les remercie infiniment. Mais vraiment, ceux qui n'ont pas encore donné, faites un geste. Encore une fois, même 5 euros, pour nous, c'est beaucoup. Vous êtes très nombreux, comme le dit souvent Richard, à écouter, très peu à donner, pas assez en tout cas à donner, même si là je sens un frémissement, comme disait Jacques Chirac, je crois. C'est vraiment important. Donc même une petite somme, si vous aimez nos émissions, si vous aimez entendre Jean-Yves Le Gallou dire du mal de l'Algérie ou du bien de la Russie, si vous aimez entendre Richard de Sèze dire du mal des Anglais, aidez-nous maintenant, c'est vraiment important. Aidez-nous comme cette auditrice tiens, de Sainte-Adresse en Seine-Maritime qui envoie 60 euros et qui dit « Nouvelle auditrice, c'est avec plaisir que je vous adresse un chèque bancaire. J'écoute votre radio avec bonheur et ne vous dirai qu'une seule chose, merci. Continuez comme ça le plus longtemps possible. » Eh bien, chère madame, bienvenue déjà. Et c'est ce que disait Jean Ferré, il naît des auditeurs de Radio Courtoisie tous les jours. Et donc, merci beaucoup pour votre soutien.
Une auditrice de Sceaux dans les Hauts-de-Seine envoie 100 euros. Ce chèque est un complément du début de l'année. Merci pour vos émissions très variées et elle nous écoute depuis 1992.
Ah bah, bravo, merci chère madame, un immense merci. Et là aussi vraiment je remercie sincèrement tous les gens qui sont déjà des donateurs, tous ceux qui donnent déjà et qui, parce qu'ils sont conscients de la nécessité de faire vivre leur radio, rajoutent une cotisation supplémentaire. Ça, ce sont vraiment des héros. Voilà, je les remercie infiniment, c'est vraiment chaleureusement que je les remercie. Et enfin, donc oui, on a un auditeur de Saint-Germain-les-Corbeilles dans l'Essonne qui envoie 200 euros et qui nous dit « Pour vous aider à passer l'été, ayant conscience de la vilainie des temps qui courent, courage et merci pour la qualité de vos émissions. C'est un grand réconfort de ne pas se sentir tout seul. » Bah, cher monsieur, c'est un grand réconfort de ne pas se sentir tout seul quand on voit arriver votre chèque de 200 euros. Merci, parce qu'on en a un besoin vital. Alors, on revient pour dire du mal de la gauche et des criminels sexuels que la gauche protège. Il y a quand même un fait assez étonnant, c'est que ce n'est pas une anomalie dans la politique de gauche. Ce n'est pas un épiphénomène. Moi, on en parlait avec Richard de Sèze en préparant l'émission, je relis ça, mais pratiquement, à ce biais intellectuel, idéologique, qu'on a déjà vu dans les années 60-70, quand il défendait la pédophilie. C'est-à-dire, on a quand même ces tribunes signées par Kouchner, Jack Lang, Cohn-Bendit et j'en passe et des meilleurs.
Mazneff,
etc.
Pour faire plaisir à Charles-Henri Deloye.
Voilà. Salut Charles-Henri, si tu nous écoutes. Mais c'est vraiment intéressant. C'est quand même bizarre cette manière qu'ils ont de défendre les pédophiles.
Alors, si vous voulez, la pédophilie, ils l'ont utilisée de deux manières. D'abord, ils l'ont défendue, ils ont voulu la banaliser comme une forme de sexualité alternative, donc il y a eu tous ces discours. Et en même temps, ça c'est très à gauche, en même temps, ils l'ont utilisée contre des cibles particulières. Alors, ils l'ont utilisée notamment contre l'Église catholique ou contre le scoutisme, en prenant des cas particuliers, en s'en servant comme instrument de guerre. Donc ils l'ont utilisée de deux manières. Ils s'en servent aussi, la protection des enfants, pour justifier des mesures de censure. On va pour protéger les enfants. Moi, j'entendais, quand j'étais au Parlement européen il y a longtemps, il fallait des lois pour réguler Internet, je cite, contre le révisionnisme, contre la pédophilie, le racisme et le révisionnisme. Et on mettait en premier la pédophilie. Et vous aviez dans les gens qui étaient partisans de réguler Internet pour lutter contre la pédophilie, vous aviez M. Cohn-Bendit et M. Olivier Duhamel. Donc vous voyez le niveau d'hypocrisie
oui.
Et de double utilisation.
Richard de Sèze, est-ce que vous établissez un lien culturel, mental, psychologique, cette continuité. Surtout à l'époque du néo-féminisme, enfin, vous me direz que ce n'est pas des femmes, mais c'est que des gosses.
malgré tout, là aussi, il ne faudrait pas...
La masculinité toxique, pour le coup.
On dit pédophilie, il ne faut pas...
C'est pédocriminalité, en fait.
Oui, le terme doit être
exact.
C'est de la pédocriminalité, ça ne signifie pas que les enfants qui sont agressés n'ont pas de sexe. C'est-à-dire, il y en a qui se font violer qui sont des garçons, il y en a qui se font violer, ce sont des filles. Et donc voilà, ce ne sont pas des enfants comme si c'était une espèce de troisième siècle.
En gros,
enfin, disons qu'il y a quand même avant la puberté.
À 97 ou 98%, ce sont des hommes.
Ce sont des hommes qui sont les coupables.
D'où l'absurdité.
Là aussi, ça mériterait de mieux enquêter, parce qu'on se rend compte, justement, avec beaucoup d'affaires, qu'il y a de plus en plus d'affaires de pédophilie où les femmes sont parties prenantes dans les violences qui sont faites.
Par complicité.
Par complicité ou d'une manière active. Enfin, voilà, là aussi. Cette libération de la parole dont on nous parle tant et qui est si chère aux féministes, c'est aussi la libération de la parole sur les turpitudes de la gente féminine qui n'est pas, qui n'est pas vierge de tout défaut par principe. En même temps, on se retrouve aussi avec, dans ces affaires de pédophilie avec un autre agenda qui est poussé, qui est celui des violences sexuelles, où ce rapport sénatorial sur le masculinisme nous explique très sérieusement que entre le fait d'exhiber ses muscles et le fait de se mettre à violer à tout va tout ce qui bouge, il y a une espèce de continuum une fois de plus, et donc il est absolument nécessaire de subventionner les associations féministes pour lutter contre les violences sexuelles, y compris contre les enfants. Donc la gauche réussit en permanence effectivement
à récupérer
tous les combats pour faire en sorte de nourrir ses propres cibles, tout en se dégageant en permanence quand il s'agit de ses affidés, au contraire, d'expliquer qu'il faut être miséricordieux, qu'il faut réinsérer, etc. En fait, la gauche passe son temps, sur n'importe quel sujet sociétal, à faire de la prévention un instrument de privation des libertés. Et donc, sous prétexte de prévenir le mal, en fait, on empêche les opinions, on empêche les comportements, on empêche les actes, y compris les moins pécamineux, parce que à un moment donné, quelqu'un décide que qui vole un œuf vole un bœuf, et donc qui regarde une fille est déjà un violeur en puissance. Il y a une association absolument admirable qui commence par parler des blagues sexistes, et dans la pyramide de l'horreur qu'elle établit, on part tout en bas des blagues sexistes, et en haut, il y a le génocide. Et donc, il y a un continuum, en fait, entre le fait de faire une plaisanterie vaseuse sur une boulangère...
L'expression « violence sexiste et sexuelle » est très significative, puisque violence sexiste, ça relève de la parole, ça peut être de la parole de mauvais goût, mais violence sexuelle, ça relève de l'acte voilà. physique, donc c'est pas la même chose. Je voudrais faire une observation incidente sur la dérive du Sénat. Le Sénat a longtemps été considéré comme une chambre raisonnable, de réflexion, etc. Or, le Sénat, aujourd'hui, est en pointe sur un nombre d'affaires avec des commissions d'enquête qui sont inquisitoriales, qui sont idéologiques. On a parlé de celle sur le masculinisme, mais il y en a une autre sur les aides privées à la culture, aux associations. Et donc, il y a le Sénat, qui était quand même réputé
à droite
et sage, modéré, la France des coteaux modérés, maintenant semble avoir été prise en main par la gauche et par des commissions qui sont inquisitoriales.
Et où la droite républicaine, évidemment, se couche totalement, voire applaudit des deux mains et des pieds. Oui. Cette loi contre la récidive, enfin sur le fait de promettre la perpétuité aux violeurs d'enfants récidivistes, etc., accompagnée d'actes de barbarie. Quand on lit le projet de loi, il y a beaucoup de pédophiles qui étaient peinardos tranquillou. D'ailleurs, merci d'ailleurs à la justice française d'être aussi coulante avec eux. Et en revanche, donc là, ceux qui étaient censés se retrouver derrière les barreaux, c'est vraiment ceux qui en avaient fait les caisses. Et ben, le Sénat était contre aussi, il y a quelques mois. D'ailleurs, là, on s'excite sur l'Assemblée nationale.
Bizarre.
Mais en mars, le Sénat était contre.
Enfin, sincèrement. Alors, ça encourage aussi là, les réflexions un peu complotistes. Je suis désolé, c'est pas une spéciale complotiste, mais c'est quand même bizarre que des élus soit à ce point hostile à des mesures qui semblent le bon sens absolu pour n'importe qui.
Oui, et qui nous explique qu'ils sont les représentants du peuple, et donc le fait que le peuple ait un désir de pénal, en fait, ne signifie rien, et que eux qui savent véritablement ce qu'est la démocratie, la démocratie n'est absolument pas de venir en aide aux victimes, la démocratie n'est absolument pas de protéger les Français, et la République, au contraire, est entièrement dans cette douceur manifestée aux pédophiles.
Ah bon. Parce qu'en gros, malgré tout, l'électeur, il vote pour les gens qui lui paraissent convenables, et quelqu'un qui a des positions en phase, finalement, avec l'opinion publique profonde, il n'est pas jugé convenable par ceux qui distribuent les certificats de convenance, et qui restent encore, malgré tout, dans les médias dominants.
Violeur d'enfants en série, c'est quand même incroyable. Enfin, je vois pas en quoi c'est malsain d'être pour la perpétuité.
Ce qui, par parenthèse, prouve d'ailleurs la limite aussi des démarches qu'il peut y avoir de la part de ceux qui déposent des amendements. Là, je parle à la droite, ils déposent des amendements en prenant le cas absolument le pire, le violeur d'enfants en série. Enfin bon, on peut difficilement en rajouter plus. Et ben malgré tout, ça sert à rien. C'est repoussé. Donc, ils pourraient peut-être avoir proposé des mesures sur des cas plus généraux au lieu de prendre des petits cas. De toute façon, ils sont battus. De toute façon, c'est comme quand il y a eu une loi qui a été votée pour augmenter le délai de rétention des étrangers clandestins ayant reçu un OQTF étant particulièrement dangereux, et ben, ça a été quand même retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc c'est peut-être pas la, ce serait peut-être mieux de prendre des cas plus généraux que de prendre des cas tout à fait particuliers qui finissent par être retoqués, soit par des votes d'Assemblée, soit par le Conseil constitutionnel.
Alors, on va passer, si vous voulez bien, au dernier sujet, parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, le temps passe à une vitesse folle. Je pense que les sondages et Marine Le Pen, on aura largement l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, et même toute l'année. En revanche, l'échec de Blue Sky, donc ce réseau social qui avait été prévu pour être une alternative gauchiste à X, donc anciennement Twitter, ça me semble intéressant. Donc, c'est vraiment... Donc, fin 2024, après le rachat de Twitter par Musk et la libéralisation du réseau, on avait vu une grande campagne de boycott, donc de X, qui avait été lancée par des collectifs de gauche qui expliquaient que X donc, mettait en avant des contenus d'extrême droite, je cite, hein, toxiques, et que c'était devenu une fabrique de division. Et ils avaient proposé de basculer vers un autre réseau social appelé Blue Sky, et la mairie de Paris, l'Institut Pasteur, à peu près 80 associations, et puis plein de journalistes aussi qui avaient soutenu ces départs, beaucoup de politiques, des députés, des sénateurs de gauche, avaient suivi le mouvement. Et aujourd'hui, boum, c'est le retour sur Terre. D'abord, beaucoup sont revenus en silence, et là, on en a deux qui viennent de faire une espèce de
mea culpa,
où ils étaient désolés. Donc c'est une dame qui s'appelle Catherine Tricot, qui dirige une revue qui s'appelle Regard, et son chroniqueur...
Regard, c'est une revue communiste.
Ah bah super, ouais. Je ne savais pas. Ouais. Et Pablo Pio Vivien, qui explique assez franchement, d'ailleurs, dans un entretien dans une chaîne YouTube, que le réseau Blue Sky, en gros, a été un énorme échec et qu'il faut se résoudre à revenir sur X où se déroule la vie politique. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, ce que ça vous inspire.
D'abord,
est-ce qu'on sait ce qu'était Blue Sky?
Non, personne ne sait ce que c'est Blue Sky ou Mastodon.
Moi, je me suis renseigné hier. parce que je prépare les émissions, monsieur.
Dites-nous ce que c'était Blue Sky.
Ben, c'était comme Twitter, mais à l'extrême gauche. Et donc, une des raisons authentiques pour lesquelles les gauchistes sont partis, c'est qu'ils ne supportaient pas eux-mêmes la pression sociale mise par les autres gauchistes pour épurer les moins gauchistes. Et donc, en fait, c'était devenu une atmosphère invivable d'autosurveillance, de censure et d'appel à la délation permanente, qui fait que même les gauchistes entre eux s'écharpaient et préféraient se barrer. C'est quand même c'est authentique, hein, c'est écrit dans un article spécialisé sur l'informatique, une revue qui n'a pas l'air spécialement de droite, mais qui explique les raisons de l'échec de Blue Sky. En fait, c'est les utilisateurs de Blue Sky, les mêmes qui prônent la liberté, l'intelligence, la tolérance, etc., et que l'on connaît hein, pour être des salopards... sectaires et intolérants, eh ben, ont mis en œuvre le système et à la fin, leurs propres épigones se sont barrés. Voilà. Donc, comment expliquer selon vous et comment est-ce que vous recevez l'échec de Blue Sky ?
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Voilà. Et avec une certaine inquiétude, parce qu'effectivement, maintenant que si la gauche revient sur X, évidemment, c'est au moment même où la France essaye de criminaliser X et d'expliquer que X est en train de manipuler les gens. En fait, avec toujours ce côté, ce complotisme du bloc central qui est persuadé que si les gens ne votent pas pour eux, ça signifie qu'on leur a menti quelque part. Et comme eux ne mentent jamais, c'est forcément ailleurs que ce mensonge prend sa source. Et donc, tous ceux qui ne disent ne pas voter pour le bloc central, tous ceux qui permettent simplement que quelqu'un à un moment donné dit ne pas voter pour le bloc central, c'est un lieu pernicieux, c'est un lieu mauvais. Et donc on se retrouve avec des Hello Kitty aussi qui avait été lancé d'ailleurs avec l'argent des contribuables par un chercheur du CNRS. Oui. Évidemment, c'est complètement planté et le mec est revenu sur X pour Jérémier et chouiner en expliquant que c'était quand même abominable et que les gens ne l'avaient pas suivi dans ces aventures aberrantes.
Et alors, c'était intéressant quand même, Hello Kitty, parce que ça visait à faciliter le passage. C'était un passage semi-automatique, parce que aller sur une nouvelle appli, il faut faire un peu de démarche. Là, on visait, on facilitait le passage de l'un à l'autre
sans problème. Et ben ça n'a pas marché. Et il faut dire d'ailleurs qu'une des raisons du succès de Twitter, c'est que les algorithmes vous renvoient, vous font connaître les sujets qui vous intéressent et les gens qui vous intéressent. Ce qui fait que si vous êtes plutôt de droite ou que vous intéressez plutôt à la montagne ou plutôt à la mer, vous allez avoir des contenus de droite ou des contenus montagne ou des contenus mer. C'est pareil pour le type de gauche. Le type de gauche qui va sur X, il va avoir des contenus qui lui conviendront plutôt. On va lui envoyer les contenus des gens qui suivent, etc. Donc X est réellement pluraliste. Et contrairement à un mensonge répété, les algorithmes ne sont pas manipulés, ils sont publics. C'est même contrairement...
Enfin, ce n'est pas tous les algorithmes qui sont publics, c'est les algorithmes de X qui sont publics.
Les algorithmes de X, pas les algorithmes évidemment de Meta, ou de YouTube, bien sûr. Oui. Et donc, le succès, c'est quand même la liberté. Ce qui fait que même moi, je prends connaissance des dépêches de Macron sur X, par parenthèse, on pourrait économiser 250 millions d'euros en supprimant l'AFP.
Bonne idée. Alors, j'entendais, je me demande si c'était pas à Radio Courtoisie, chez Richard de Sèze, que sur X, justement, il y avait des... Bah, l'extrême centre essayait de réagir à la liberté et de choix des internautes, et notamment des utilisateurs de X, et qu'ils se débrouillaient pour que nous soient imposés des messages, des posts, comme on dit, venant justement du gouvernement de Macron.
Ça fait partie des propositions.
Ah, c'est une proposition.
Des propositions qui ont été faites par la députée Renaissance, si je ne m'abuse, à moins que ce soit la députée Horizon, je m'y perds un peu, qui disait qu'au nom du pluralisme, il fallait que si jamais vous avez reçu qu'on a pu vérifier que vous avez lu et consulté 10 postes du RN, et il faut que l'algorithme vous envoie X postes de Horizon, d'Edouard Philippe, de Valérie Pécresse.
Ce qui est quand même incroyable. Parce que,
on
quitte la télé pour ne forcer, plus voir ces enfoirés, ces gens.
On va vous irradier de pluralisme, en fait.
Je suis abonné à Edouard Philippe, à Valérie Pécresse, etc. Parce que j'ai besoin quand même de me pénétrer de la profondeur de leurs pensées.
Puisque vous êtes déjà mitridatisé, donc. Il ne se passera rien. Mais pour ceux qui vont sur X pour le bonheur, effectivement, comme dit Pierre-Alexandre Bouclet, Pécresse, et ben, tant pis pour eux, ils auront droit à du Pécresse.
Mais c'est fou, quoi. Ben, ça, pour le coup, voilà un truc bien liberticide. Mm. C'est même plus de gauche, là.
Il y a d'ailleurs des gens qui font des choses intéressantes dans le Bloc central. Je pense à Mme Morançais, par exemple, la présidente de...
Le collaborateur s'est fait violemment
indépendamment de ses propos, parce que propos, ça reste des propos, elle a quand même fait une meilleure maîtrise de ses dépenses et des subventions que beaucoup d'autres.
Ah, bah, tant mieux.
Oui, Morançais, c'est la région Pays de Loire.
Pays de Loire, oui. Et en une minute, alors, comment est-ce que vous voyez le retour de ces gauchistes sur X ? Est-ce qu'à votre avis, ça va modifier les équilibres ? Est-ce qu'on était bien tranquille sans eux ? Ou est-ce qu'en fait, on s'en fiche et ça ne va rien changer ?
Très bien. Comme le dit Jean-Yves, il y a déjà énormément de gauchistes sur... le Parti communiste y est, tous les membres, tous les LFI est sur X, tous les médias de gauche sont sur X. Autrement dit, si vous avez envie de savoir ce que dit la gauche sur X, il n'y a aucun problème.
Alors, il y a un effet pervers, quand même, du point de vue de la gauche. C'est qu'elle est contaminée, de fait, par la droite. Ils ont l'habitude d'être dans l'entre-soi, ce qu'ils ont retrouvé, mais pas pour longtemps, sur Blue Sky. Et en étant sur X, ils peuvent être contaminés par des idées de droite.
Ah bah oui, voilà. Parce qu'effectivement, ils ne sont plus dans ce qu'ils appellent un safe space, donc un espace sécurisé.
Exactement, eux, c'est la bulle, vous savez, comme à l'hôpital, quand il y a la bulle.
En fait, c'est un espace hybridé, espace métissé, c'est un espace créolisé, c'est un espace où il n'y a pas la pure gauche qui règne seule en maître.
Et comme les dingues, parce que c'est vraiment les dingues qui veulent être dans leur petit espace où personne ne leur fait bobo et où ils sont à l'abri de toute forme de ce qu'ils appellent les micro-agressions. Faut vraiment... Il n'y a que les enfants ou les tarés qui agissent comme ça. Non, je suis désolé. C'est les gens qui refusent de se confronter au réel, finalement, ce sont des gauchistes ou des dingues. Et peut-être les deux à la fois. Sur ces propos, chers amis, notre émission, notre première partie d'émission touche à sa fin. On va vous laisser... Chers auditeurs de Radio Courtoisie, maintenant, écoutez l'entretien que nous a donné Julien Sanchez. Donc je rappelle, Julien Sanchez, une personnalité rare dans les médias, qui s'exprime très peu, qui est un militant historique du RN et qui est surtout désormais le directeur de campagne de Marine Le Pen. Et il va être une personnalité vraiment centrale. Et donc, premier entretien, premier portrait sur les ondes de Radio Courtoisie. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour nous retrouver ensemble. Et dès demain, vous avez rendez-vous avec Richard de Cesse pour un autre Restons Courtois.